éviter que ça en coule, mais maintenant c'est fini.
Au lendemain des émeutes, et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche, et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent, et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la ville, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Radio Canu. Il est l'heure du Canu Info du jeudi. Ce soir, nous allons vous parler, comme d'habitude, de tout un tas de choses. Nous allons commencer ce Canu Info avec l'actualité israélo-palestinienne. Nous parlerons aussi de l'American Way of Life. Et oui, nous parlons de la liberté de la presse, nous irons dans plusieurs pays, on parlera de la FIFA, oui, on va faire un petit retour, on parlera de Raël et Dieudonné, oui, vous avez vu, hein, c'est varié ce soir, nous parlons aussi de valeurs actuelles, oui, ça sera dans la même ligne, nous vous conterons des histoires d'eau aussi, je vous laisse réfléchir à ça, on vous parlera des profiteurs, ce soir nous parlons de la Poste, et puis peut-être qu'on vous parlera d'EDF, et puis peut-être de grève dans le métro londonien, nous verrons bien.
Et on va ouvrir avec un petit bout d'actualité israélo-palestinienne, puisque Benjamin Netanyahou a annoncé tout à l'heure officiellement, alors que l'info datait de quelques jours et que ce n'était pas encore rendu officiel, que deux ressortissants israéliens seraient détenus dans la bande de Gaza, donc par les méchants du Hamas, ce que sous-entend cette news. Donc, on n'a pas toutes les infos, c'est un petit peu compliqué de comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, vraisemblablement, il y a Avraham Mengistu, qui est un habitant de Ashkelon. Alors, Ashkelon, on connaît parce que c'est une colonie, enfin, une ville israélienne qui est très très proche de la bande de Gaza et qui reçoivent de temps en temps hein, des petites bombes de la part des Gazaouis, en tout cas du Hamas ou du djihad islamique ou d'autres groupes de résistance armée présent dans la bande de Gaza. Et donc lui, il serait actuellement détenu par le Hamas à Gaza. Il y aurait un autre, un arabe israélien cette fois, puisque Avraham, il est juif israélien venant d'Éthiopie. C'est... mais alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est comment ils s'y sont retrouvés dans la bande de Gaza. Alors, pour l'arabe israélien, il n'y a aucune info qui est donnée. Pour Avraham, ils ont contacté sa famille. Vraisemblablement, il avait des soucis de santé, mais alors on n'a pas du tout d'idée de quel ordre sont les soucis de santé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est allé, lui, volontairement dans la bande de Gaza. Il n'a pas été enlevé par le Hamas ou des militants palestiniens. Il s'est rendu volontairement. On n'a pas du tout la raison de tout ça. En tout cas, il serait dans les geôles du Hamas. Et ça inquiète énormément Benjamin Netanyahou et Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le fameux Gilad Shalit en tête. Hein. Vous savez, Gilad Shalit, c'est ce soldat qui avait été, lui, par contre, enlevé, on va dire, ou emprisonné, en tout cas, par le Hamas lors d'un raid en 2006, qui est resté 5 ans en captivité. Et alors, c'est pas tant les 5 années de captivité qui comptent, mais c'est surtout que pour le libérer, ils avaient demandé en échange la libération de prisonniers palestiniens et ils avaient obtenu presque 1000 libérations. Ah, 1000 face à 1, bah oui. Ce qu'on vous dit pas et ce que ne dit pas Benjamin Netanyahou ni les médias dominants, c'est que là, il y aurait peut-être 2 Israéliens en prison. Mais alors, par contre, si on regarde du côté d'Israël, c'est bien pire, hein, puisqu'il y aurait, il y a plus de 5000 prisonniers politiques, forcément palestiniens, dans les geôles israéliennes, dont des femmes, des centaines d'enfants, il faut quand même le savoir, des journalistes, des écrivains, des députés, dont le plus célèbre est peut-être Marwan Barghouti, hein, qui a été condamné plusieurs fois à la peine perpétuelle, et dont pas mal de collectifs en France militent pour sa libération. Il y a même une ville qui a donné une place, qui a donné son nom à une place Marwan Barghouti. Voilà, militant historique hein, de la Palestine des années 70 et 80. Et si on regarde sur les dernières années, on va dire depuis 67, hein, 700 000 Palestiniens sont passés dans les geôles israéliennes, ça fait 20% de la population des territoires occupés. C'est quand même énorme. Donc voilà, oui, ça fait un prisonnier israélien et on a envie que tous les prisonniers soient libérés, mais on a quasiment 5000 fois plus envie que les prisonniers palestiniens soient libérés aussi, hein, que le prisonnier ou peut-être les deux, mais ça, la deuxième info n'est pas du tout fiable.
Alors nous partons aux États-Unis d'Amérique. La gouverneure républicaine de Caroline du Sud, Nikki Haley, avait appelé le 22 juin dernier les élus à voter le retrait du drapeau confédéré à la suite de la tuerie raciste dans une église de Charleston le 17 juin dernier, je vous le rappelle, par un partisan de la suprématie blanche. 9 morts. Alors, il y avait eu cette demande. Lundi, il y avait déjà eu 2 votes préliminaires. Il faut savoir qu'en 2000, et les sénateurs et les députés de l'État avaient voté pour que le drapeau confédéré soit enlevé du Parlement, où il était depuis les années 60, mais il avait été replanté dans les jardins du Parlement, c'est-à-dire pas très loin en fait, donc il n'avait pas du tout disparu. Hein. Lundi, le Sénat a rejeté 2 amendements, une demande de référendum, qui a été rejeté, et une proposition pour que le drapeau soit hissé le jour dédié aux soldats confédérés, donc voilà, au moins le garder une fois, c'était la demande, donc les 2 amendements ont été rejetés. Et puis mardi, il y a eu un nouveau vote au Sénat, et le Sénat de la Caroline du Sud a voté le retrait du drapeau confédéré par 36 voix pour, 3 voix contre. Les sénateurs ont approuvé en troisième lecture hein, la proposition de loi. C'est donc une proposition qui va ensuite être présentée aux députés de la Chambre locale. Ils sont 124 et là, il faut le dire, le vote il est un peu plus incertain. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Si c'est fait, ça y est, t'as eu l'info alors, parce que dernière, je l'avais pas encore.
Bah oui, ils ont passé la nuit complète à débattre. 14 voix pour, 20 contre, donc effectivement,
super.
C'est la deuxième étape, donc le drapeau, d'après les élus de la Chambre des représentants de Caroline du Sud, doit être enlevé, mais c'est pas fini, puisque en fait, c'est forcément le gouverneur, alors c'est une femme, donc c'est la gouverneure de Caroline du Sud qui a le dernier mot, qui s'appelle Nikki Haley, mais elle s'est exprimée déjà plusieurs fois, elle a dit qu'elle était favorable à enlever cet emblème raciste du Parlement et du jardin du Parlement.
Ouais, alors il y en a d'autres hein, qui sont pas contents, c'est le Ku Klux Klan par exemple, qui a déjà appelé à manifester le 10 juillet prochain devant le Parlement, pour la culture blanche, pour sa sauvegarde, et pour le maintien du drapeau confédéré. Alors apparemment ils ont demandé et obtenu une autorisation de rassemblement. Bon, ils annoncent être 100, 200. Ben écoutez, hein, tant qu'ils ne sont pas des milliers, déjà, ça ira un peu mieux. Mais reste qu'il y a toujours ce racisme. On voit apparaître en ce moment dans les médias français un certain nombre d'articles sur les églises noires brûlées. Il faut savoir qu'il y en a constamment aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un acte rare. Ce qui a été rare, là, c'est quelqu'un arrive avec une grosse arme pour flinguer tout le monde d'un coup. Mais les églises qui brûlent, il y en a tout le temps aux États-Unis d'Amérique. Donc le racisme, il est tout le temps là.
Voilà, et ce n'est pas des actes anti-religieux, hein, ce qui s'expliquerait. Mais non, c'est vraiment des actes racistes. Les mecs, ils viennent juste brûler les lieux de culte des Noirs et pas les lieux de culte des Blancs. Hein, c'est les suprémacistes, hein, c'est l'extrême droite. Hein, c'est des noms un peu particuliers aux États-Unis. On a des suprémacistes aussi chez nous, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes formes. Mais voilà, l'extrême droite américaine a toujours le pouvoir de s'exprimer, hein, puisqu'aux États-Unis, il y a une énorme liberté de parole et d'existence, hein, ce qui se défend. Hein. Mais du coup, ces groupes, ils sont toujours là. Le Ku Klux Klan existe toujours, même si on est quand même loin des chiffres qu'ils pouvaient faire dans les années 70, là où ils brûlaient des Noirs. Ils attaquaient au vu et au sud tout le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même plus difficile pour eux, et tant mieux.
Alors, on va parler de liberté de la presse.
Ouais, alors je vais refaire trois grosses infos sur la liberté de la presse. D'abord, grâce à Wikileaks, on a des câbles, vous savez, ces câbles diplomatiques, qui ont été publiés et qui nous expliquent comment l'Arabie Saoudite, qui a déjà plus de presse indépendante dans son royaume, ça c'est réglé, hein, il n'y a aucune liberté de la presse en Arabie, mais elle arrive à fourvoyer, à mettre de la pression sur les médias étrangers. Et on a donc ces câbles qui nous expliquent tout ça. Alors on va les détailler un petit peu. Donc ça s'appelle les Saudi câbles, hein, les câbles d'Arabie Saoudite, sur le Wikileaks. Et qui nous donne tout ce qui a pu se passer, peut-être pas tout, mais une partie, entre 2000 et 2015. Malheureusement, tous les câbles sont pas datés, donc c'est pas toujours facile de comprendre le câble diplomatique et d'y associer un événement. Mais ça donne une bonne idée. Alors, je vais vous dire plein d'exemples des actions de l'Arabie Saoudite pour museler la presse internationale, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. Alors, les premières actions que peut faire l'Arabie Saoudite, c'est grâce à son argent. Donc c'est du soutien financier. Je rappelle que l'argent d'Arabie Saoudite, ils ne le fabriquent pas. C'est les Occidentaux, hein, qui donnent de l'argent à l'Arabie Saoudite, notamment en mettant du pétrole dans les voitures. Hein. C'est le principe, la principale source de revenus, c'est les automobilistes. Alors, on a plein d'exemples. Alors, premier exemple, ça se passe à Londres. L'ambassade saoudienne à Londres a proposé en 2011 de soutenir une chaîne. C'est une chaîne persane. Alors, vous allez voir que ça intervient souvent. Ben, forcément, c'est la guerre sunnite chiite, hein, qui existe aussi à travers les médias. Donc là, ils ont proposé de soutenir la chaîne persane Vezal Farsi TV, hein, qui a changé de nom depuis. Donc, cette chaîne qui appartient à un opposant sunnite iranien a récupéré de l'argent et à un membre du conseil d'administration choisi par l'Arabie Saoudite, et c'est la voix de l'Arabie Saoudite pour certains Iraniens. Autre exemple, au Sénégal, l'ambassadeur saoudien au Sénégal a proposé d'augmenter le soutien à un journal qui s'appelle Le Soleil. Alors comment ils ont fait là? Ils ont plutôt pris des abonnements. Donc ils ont pris, ça dépend des moments, entre 4000 et 10000 dollars d'abonnements pour soutenir ce journal et une fondation aussi qui vont être la voix de leur maître, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite. Il y a eu d'autres affaires comme ça un peu partout, je ne vais pas toutes les citer non plus, mais grosso modo, c'est en Europe que ça se passe, pas mal, en Afrique aussi, où on soutient des médias qui vont être la voix de l'Arabie Saoudite en achetant avec l'argent. Alors, autre procédé mis en œuvre par l'Arabie Saoudite pour museler la presse internationale, c'est contre-attaquer quand il y a des informations qui sortent avec d'autres informations, voire punir. Hein, les contre-attaques, c'est aussi des fois des punitions. Alors, il y a l'exemple du Financial Times, hein, qui avait fait des reportages soi-disant mensongers sur l'Arabie Saoudite, notamment le financement de l'islamisme international par l'Arabie Saoudite, ce qui est relativement juste, hein, quand même, faut le dire. Mais ça n'avait pas plu à l'Arabie Saoudite. Donc, ils ont interdit au Financial Times d'avoir un correspondant, ils l'ont viré. Ils ont fermé le bureau du Financial Times à Riyad. Et voilà, ils ont fait ça jusqu'à qu'il y ait une excuse et, comme ils disent, une information neutre et objective sur l'Arabie Saoudite. Ça nous fait bien rire. Alors, autre exemple, au Liban, par exemple, l'ambassadeur au Liban devait, lui, s'expliquer de l'éventuel changement de ligne éditoriale d'un journal libanais qui s'appelle Al-Safir, après la parution, là aussi, d'un article racontant les liens entre Ben Laden et l'Arabie Saoudite. Donc là, on fait intervenir les ambassadeurs et on va voir que le rôle des ambassades est important hein, pour essayer de faire pression sur les médias à travers soit les politiques, soit les médias directement. Alors on a d'autres exemples. C'est arrivé par exemple à Berlin. Alors c'est presque plus drôle. Quand on a de l'argent, on peut tout faire. Hein. Donc là, c'est toujours l'ambassade d'Arabie Saoudite à Berlin qui est à la manœuvre. Donc elle avait alerté le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite de rumeurs concernant une campagne médiatique hein, orchestrée par l'ambassade israélienne en coopération avec des médias allemands contre certains pays arabes, dont l'Arabie Saoudite. Pour contrer cette offensive, comment ils ont fait ? Eh ben, ils ont proposé... On ne sait pas s'ils sont arrivés à le faire, parce que les câbles ne disent pas, hein, disent pas le résultat, mais ils ont proposé d'acheter des journalistes allemands expérimentés, des écrivains, pour écrire des articles positifs sur l'Arabie Saoudite. Avec des salaires intéressants, pour les journalistes, ils avaient prévu 7 500 € de salaire par mois.
Wow.
Alors on comprend que le petit journaliste, il s'adresse pas au petit journaliste, parce qu'il faut que le journaliste soit déjà connu, mais bon, on comprend bien qu'il y en a qui se laissent facilement, ou qui peuvent se laisser corrompre, en tout cas. Alors il y a eu ça en Afrique du Sud aussi, sur des articles qui parlaient de l'extrémisme musulman moderne, financé en partie par l'Arabie Saoudite. Là, c'est pareil, ils ont rémunéré un professeur 10 000 $ pour lui aussi pondre des articles favorables à l'Arabie Saoudite. Et ce qu'on se rend compte hein, à travers ces câbles diplomatiques, c'est que c'est les ambassades qui sont, on va dire, le bras armé du muselage de la presse internationale par l'Arabie Saoudite. D'abord, les ambassades, elles lisent la presse dans les pays où elles sont, elles font des rapports, et l'Arabie Saoudite suit les rapports, et après envoie soit de l'argent, soit des consignes pour essayer de contrer les informations libres. On rappelle que l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est tout sauf libre. Certes, on fait du business avec ce pays et que les capitalistes sont prêts à tout, mais ceux qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas prêts à tout, rappellent quand même que c'est un des pays dans lequel la liberté de la presse est la plus basse, puisqu'ils doivent être 150, plus de 150e au classement de Reporters sans frontières, donc ils sont en queue de peloton quand même sur la presse. Alors, deuxième info sur la presse, autre pays qui réaugmente énormément le muselage des journalistes, c'est forcément l'Égypte, du dictateur pseudo-président Sissi. Donc, des nouvelles mesures sont prévues, il y a une nouvelle loi qui est en discussion en fait. Et ça a commencé à sortir et apparaître dans certaines presses. Ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi liberticide, donc ça date de dimanche dernier les informations. Alors si cette loi est adoptée, ça va permettre grosso modo de museler quasiment entièrement la presse. Alors un petit exemple, la situation, et c'est peut-être de là d'où vient d'ailleurs l'idée de cette loi, et peut-être ça date peut-être d'avant, mais il y a peu de temps, vous avez entendu parler du contexte sécuritaire un peu critique dans le Sinaï, où des djihadistes de Daesh ont tué des militaires égyptiens. Et ils se sont rendus compte que les journalistes n'avaient pas donné tout à fait les mêmes infos que l'État. Donc, il y a l'idée de pouvoir, quand ça arrivera, qu'un journaliste qui relaie une source différente de celle de l'armée ou de l'État, eh ben, il va dorénavant, après cette loi, risquer la prison ou une déportation, ou c'est-à-dire une exclusion ou une assignation à résidence. C'est ce qui est prévu, donc, et ce qui devrait être approuvé par le président dictateur Abdel Fattah al-Sissi dans les prochains jours. Alors, c'est l'inquiétude des journalistes, c'est l'inquiétude d'un peu tout le monde. Alors, pour détailler, par exemple, l'article 33 du projet de loi stipule que toute personne qui publie de fausses informations, la notion de fausses informations n'est pas précisée, concernant des opérations terroristes contredisant les communiqués officiels, risque 2 ans de prison. Donc, c'est ce que je viens de dire sur le Sinaï, ça s'appliquait parfaitement. D'autres articles, par exemple le 26, 27, 29 et 37, eux disent que toute personne qui diffuse des informations incitant même indirectement à la violence, en gros racontant peut-être un acte violent, ou à la préparation d'actes terroristes visant à nuire aux autorités sécuritaires, donc la police, l'armée et l'État, ou portant sur des actions terroristes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays risquent également la prison. Donc du coup, les journalistes, ils n'ont plus qu'à se taire. Voilà tout ce qui est prévu, une partie des choses prévues par cette loi. Alors c'est contesté par le syndicat des journalistes, mais bon, on ne sait pas s'ils ont beaucoup de moyens de pression dans l'état qu'est aujourd'hui l'Égypte. Donc on va voir. Alors l'Égypte, c'est pareil, hein, c'est aux alentours de, c'est pas loin de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Hein, c'est entre 150 et 160e du classement mondial de Reporters sans frontières. Ils font des compétitions pour être dans les derniers et ils sont assez bons là-dessus. Et puis dernière info sur la liberté de la presse et les journalistes qui en prennent plein la gueule. On va retourner en Israël où l'armée israélienne s'en est pris très récemment à des journalistes de la chaîne jordanienne Roya TV. Ils les ont attaqués, ils sont sympas, ils ne les ont pas attaqués à l'arme lourde, mais au gaz lacrymogène, mais à peu près hein, quand même. C'était près du village de Jabba, au nord de Jérusalem. Ces journalistes couvraient une manifestation palestinienne totalement pacifiste au départ, mais les manifestations sont pacifistes tant que l'armée n'attaque pas, ou la police. C'était pour commémorer, si vous vous rappelez, l'assassinat du jeune Palestinien de 16 ans, qui s'appelle Mohamed Aboukder. C'était l'année dernière, le 2 juillet, parce qu'il y avait eu un assassinat de 3 Israéliens près d'Hébron, et l'extrême droite israélienne avait enlevé ce jeune Palestinien, pensant que c'était lui ou pas, et s'était vengé en l'assassinant. Donc c'était une manif pour commémorer cet assassinat. Et alors donc ils se sont fait rentrer dedans hein, par les forces de répression israéliennes. La chaîne d'ailleurs a diffusé une vidéo où on voit bien les deux journalistes agressés au gaz lacrymogène. Ils ont été brûlés d'ailleurs au visage tellement que c'était prêt. Ils ont dû être transportés à l'hôpital. Donc c'était pas un petit incident. Alors si on regarde ce qui se passe en Israël, qui reste quand même un régime où la presse a le droit de s'exprimer, sauf que en Israël, quand on est de la presse étrangère et notamment de la presse d'un pays arabe, c'est plus difficile, hein, parce qu'on sait que la presse interne israélienne est relativement libre, hein, on a des journaux intéressants comme Haaretz, comme plein d'autres. Par contre, quand vous faites partie d'une chaîne étrangère, c'est plus difficile. Plein d'exemples, j'en cite quelques-uns. Le 17 mai dernier, célébration pour la journée de Jérusalem, jour qui commémore la reconquête de Jérusalem-Est et de la ville lors de la guerre des Six Jours. Et là, c'est une équipe de la chaîne russe, d'une chaîne russe qui s'appelle RT, qui a été agressée par la police israélienne, qui a été empêchée de filmer. Ils ont même cassé la caméra. Le 15 mai dernier, c'est le 67e anniversaire de la Nakba. Vous savez, la Nakba, ça veut dire la catastrophe. Hein, c'est aussi la date de la création de l'État d'Israël. Ben, forcément, hein, c'est quand on éjecte le maximum de Palestiniens de ce lieu pour y implanter l'État israélien. Donc là, des manifestations aussi. Un photojournaliste palestinien qui travaille pour l'agence chinoise Xinhua. Lui, il est blessé par balle à l'œil et depuis, il a perdu son œil, d'ailleurs. Donc agressé par la police israélienne. On peut remonter encore, hein, le 2 mai dernier, pareil, un rassemblement pacifique organisé par le syndicat des journalistes palestiniens à Bethléem. Ah, on est à Bethléem. Donc en territoire occupé, hein, en Cisjordanie. L'armée israélienne intervient parce qu'elle ne veut pas de cette manifestation du syndicat des journalistes, parce que l'armée, hein, toutes les armées du monde, je pense, n'aiment pas les journalistes. Et l'armée israélienne particulièrement, donc là c'est pareil, ça tabasse, arrestation, on empêche les journalistes de faire leur travail. Et puis une dernière petite info, le 24 avril, là c'est les rassemblements qu'on a eu toutes les semaines pour protester contre l'occupation israélienne dans un village qui s'appelle Nabi Saleh en Cisjordanie. Là les soldats israéliens vont aussi agresser les journalistes. Il y a d'ailleurs une vidéo qui a été postée sur internet qui montre l'agression des journalistes qui sont chassés par les soldats israéliens. La scène est presque drôle puisqu'ils les chassent à coups de pierre. Donc voilà, c'est pour dire que la liberté de la presse. On en avait parlé la semaine dernière où la France, elle a attaqué IATA, enfin la justice française, elle a attaqué le Jura Libertaire. Et ben, à l'étranger aussi, la presse est attaquée et beaucoup plus violemment, du coup, parce que moins les régimes sont démocratiques, plus les violences sont fortes, forcément.
Allez, on va aborder quelque chose d'un peu plus rigolo. On va parler de la FIFA. Tout de suite, vous verrez.
Ouais, hein. On tape dans un ballon, tout ça.
Alors, vous avez compris, la FIFA, le foot professionnel, c'est propre, il y a de l'honnêteté, il y a de l'éthique. Hein, vous avez bien compris, ça, c'est comme un mantra, vous allez vous le répéter. Eh ben alors, il se passe un petit peu encore des choses, hein, puisque l'ancien secrétaire général de la CONCACAF, hein, je vous rappelle que c'est la Confédération Amérique du Nord, Caraïbes et Amérique centrale, il était donc ancien secrétaire général de 1990 à 2011, ancien membre du comité exécutif de la FIFA de 97 à avril 2013, je parle de monsieur Chuck Blazer, il a donc été suspendu à vie par la Fédération internationale de football à 70 ans.
Ouais, mais lui, il a fait un truc mal. Il a balancé les infos à la presse. C'est pour ça qu'on l'appelle
pas du tout. Selon le communiqué de la commission d'éthique de la FIFA, paru hier, monsieur Blazer a commis une série d'actes inappropriés de façon répétée et continue quand il était en poste à la CONCACAF et à la FIFA, comme des paiements illégaux.
C'est marrant quand même, parce que lui, il a attaqué, il est exclu, alors que celui qui a démissionné, il n'avait jamais été exclu, et Blazer, c'est lui qui a balancé à la justice américaine. Donc, ça sent le ménage interne quand même.
Ça sent la vengeance quand même. Oui, en tout cas, il faudrait quand même se souvenir qu'il a passé 16 mois à collaborer avec la justice des États-Unis d'Amérique. Il était encore membre du comité exécutif quand on est venu le chercher pour cette enquête qui a donc fait apparaître cette corruption au grand jour. Donc c'est aussi pour ça ce qu'il y a vengeance. C'est parce que quand même, depuis décembre 2011, il a aidé. Hein, il a fait l'indic, il a fait la taupe, vous employez le terme que vous voulez. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il était un allié de M. Blatter, du président donc démissionnaire. Donc voilà, là on sent quand même qu'il y a une affaire aussi de personnes. Alors tout ça se passe quand même entre vieux monsieur. Hein, quand même, il faut aussi se le dire. On règle les comptes entre vieux monsieur comme des gosses de 10 ans. Je pense que Chuck Blazer, qu'est-ce que vous voulez? Il est malade. De toute façon, il doit des sommes incroyables. Il sait qu'il a encore des problèmes avec la justice aux États-Unis d'Amérique.
Bon, il s'en fout, je pense.
Je pense qu'il en est plus à ça. Hein, que ça fait longtemps que, de toute façon, quand il a commencé à collaborer, il a dû se dire que c'était fini, que c'était mort. Mais enfin, tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que officiellement, la cause de la suspension à vie de toute activité liée au football, hein, quand même, tout de même, c'est à cause de la corruption du monsieur, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, le football, c'est propre, hein, la FIFA, c'est propre, c'est plein d'honnêteté et plein d'éthique. C'est ça qui est important.
Alors, ils ont une belle éthique, c'est qu'ils détestent les femmes, hein, parce qu'on a pu remarquer l'extrême sexisme de ces gens, puisque nous n'avons pas vu de femmes dans celles qui se présentaient. Hein, il n'y en avait pas. Dans les élus, il n'y en a pas non plus. On se demande si elles sont peut-être secrétaires. C'est peut-être ça la vision de la femme à la FIFA. Voilà, en plus d'être effectivement corrompue du début jusqu'à la fin. Alors, on va faire un autre truc un peu bizarre et drôle. Quand Raël et Dieudonné s'avouent leur amour. Alors, vous connaissez tous Raël. Vous savez, c'est ce gourou hein, qui a écrit des livres parce qu'il raconte sa rencontre avec des extraterrestres. Et c'est les extraterrestres qui ont créé les êtres humains. Et il explique tout avec ses amis extraterrestres, ses petits hommes verts. Bon, il dit pas les petits hommes verts, hein, parce qu'il fait un truc sérieux, un peu, voilà. Donc, gourou d'une secte.
Facho.
Si, c'est un facho.
Il aime les dictateurs, il est nationaliste. Si.
Non, mais bien évidemment. Sinon, il n'aurait pas fait copain avec Dieudonné, autre facho bien connu. Donc, ça a été officialisé le 26 juin dernier. Parce que Dieudonné a eu comme titre honorifique de la secte, il est guide honoraire de la secte raélienne. Voilà, c'est quand même beau. Hein. Alors, c'est pas la première fois que Dieudonné fréquente les groupes sectaires, en plus des groupes d'extrême droite, voire les groupes sectaires d'extrême droite. Puisqu'en 2009, il était avec Christian Cotin, activiste pro-secte, qui était membre de la liste anti-sioniste, qu'il avait montée avec Soral, hein, autre militant d'extrême droite. Sur Raël, il lui avait prêté son théâtre de la main d'or là qu'il louait le 22 mars 2009. Donc il l'a rencontré plusieurs fois le 13 novembre 2006 à Lausanne. Voilà, Raël avait d'ailleurs fait un communiqué pour soutenir la liberté d'expression de Dieudonné. Il avait pris une photo en train de faire une quenelle aussi. Enfin voilà, grosso modo, ces gens d'extrême droite et ces gens sectaires ont plein de points communs et là ils font bisous. Donc nous avons Dieudonné qui est guide honoraire de cette magnifique secte. Jamais compris comme pourquoi on acceptait toujours autant ces sectes et qu'elles n'étaient jamais condamnées ou très peu condamnées. C'est quand même assez triste. Peut-être c'est parce que il n'y a pas beaucoup de membres de la secte, parce que c'est quand même assez perché de penser aux petits extraterrestres. Mais il paraît Je suis allé lire un début du livre de Raël cet après-midi. J'avais envie
de
rire.
Ah, c'est pour ça que t'es comme ça, ouais. Depuis tout à l'heure. Je me demandais
très, très
un
drôle.
Peu.
Donc, ils ont des arguments en disant qu'il y a des milliers de témoins d'OVNI chaque année. Donc, les extraterrestres sont bien parmi nous et nous observent. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a vu des OVNI, envoyez les Radio Canu, on les cuisinera parce qu'on a quand même beaucoup de doutes. En tant que rationaliste, pour l'instant, nous n'avons jamais rencontré d'extraterrestres. Par contre, des militants d'extrême droite, malheureusement, on en voit beaucoup plus.
Oui, on va continuer donc avec Valeur Actuelle.
Ah bah, alors, on n'est pas loin.
Écoute, la transition était toute faite aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe un petit peu dans les pages et sur le site internet de Valeur Actuelle. Pour commencer, aujourd'hui, je me suis baladée grâce à un agrégateur de flux pour suivre le fil de syndication de Valeur Actuelle.
Oui, c'est une activité comme une autre, un peu
c'est
bizarre.
C'est une activité comme une autre. Oui, mais vous savez, c'est alors pour ceux et celles qui sauraient peut-être pas bien de quoi je parle, vous savez, sur les sites internet, souvent vous avez un petit logo orange.
RSS.
Voilà. Et ça permet donc, soit à travers plein de manières, de pouvoir suivre les mises à jour d'un site web et en particulier des sites de médias qui utilisent bien cette fonction. Et donc c'est comme ça qu'on trouve évidemment les mises à jour et donc comment on peut aussi s'apercevoir que des titres changent au cours d'une journée, parfois à quelques minutes d'intervalle. Parfois, ça prend un peu plus de temps et un peu plus de réflexion, apparemment. Alors, évidemment, ça donne aussi une bonne vision des sujets de Valeur Actuelle. Vous allez voir, c'est assez uniforme, quand même. Alors, évidemment, on a tout ce qui va concerner les étrangers.
Oui, ils aiment pas bien les étrangers.
Sauf que les titres sont toujours l'air de rien. Nous avons par exemple, hier, à 17h, Marseille, les gens du voyage s'installent dans plusieurs stades. L'air de rien, comme ça a l'air juste de rapporter un fait. Je peux vous assurer le contenu, c'est pas le cas. Bordeaux, des bungalows en cours de construction pour accueillir les migrants. Ça, c'était hier à 16h02. Éric Ciotti, favorable au test osseux pour déterminer l'âge des migrants. Là, des gens sont un peu plus d'engagement. C'était hier à 11h39. Chrétien d'Orient, appel aux donateurs. C'était à 11h09 hier. Et puis, il y a évidemment, donc je vous le disais, des titres qui changent, toujours un peu dans la même idée. À 16h02, c'était hier, des commerçants excédés envisagent de créer une milice à Montpellier. À 16h14, c'est devenu 12 minutes plus tard, des commerçants excédés veulent créer une milice à Montpellier. On est passé de « on est en train d'en causer pour le faire » à « nous avons déjà pris les bâtons pour aller dans les rues sillonner Montpellier ». Voilà, des petites choses comme ça, l'air de rien. Et puis au milieu, bon, il y a un peu de la récupération sur, par exemple, un papier sur Serge Lazarevic, vous savez, l'ex-otage, dont les médias ont beaucoup parlé cette semaine. On suit un petit peu comme ça. Et puis, hier, mercredi, il y avait un drôle d'article. Comment fonctionne la climatisation ?
Sur un journal de droite.
Je crois qu'il y en a, il a pété un câble dans son bureau, il devait avoir très très chaud, il est allé sur Wikipédia, il s'est renseigné, enfin, non mais c'est voilà. Et puis, il y a le sujet dont tout le monde parle un petit peu, évidemment, cette semaine, c'est l'appel de Denis Tillina, qui est journaliste de Valeur Actuelle, qui écrit ailleurs aussi, Marianne de temps en temps. Qui a relancé un appel qui n'est pas récent, mais qui l'a relancé et qui donc hier à 12h s'appelait « Comme les 30 premiers signataires, je signe l'appel de Denis Tillinac » et qu'à 12h20, c'est devenu « Comme les 30 premiers signataires, je signe l'appel de Denis Tillinac pour sauver nos églises ». Ah, là c'est plus clair.
Et donc nos églises sont en danger.
Oui, puisqu'ils ont même fait hier une parution, une publication à 10h38 d'un sondage exclusif « Église transformée en mosquée, les Français disent non, nous allons y revenir ». Et il faut savoir que la couve de cette semaine est bleue et c'est écrit « Touche pas à mon église ». Ah oui, ils sont dans
le racisme.
Dans la continuité. Aujourd'hui, ils remettaient une petite couche avec un premier article à 14h45 qui a été modifié à 16h30. À l'intérieur du corps de l'article. À Nantes, la mosquée a remplacé une chapelle, c'est parce qu'il faut amener quand même un peu des preuves à ce texte. Alors, comme je vous le disais, d'abord, ils ont fait un sondage, publié hier, un sondage IFOP Valeur Actuelle. Alors, évidemment, ça a beaucoup de valeur, c'est très scientifique et c'est très important. Si jamais vous êtes jamais allé sur le site de Valeur Actuelle, il faut regarder les photos. Puisqu'à chaque fois, il y a des photos qui sont mises en tête d'articles, comme surtout les sites, il faut égayer un peu. Mais on sent que là où on peut critiquer certains sites qui vous mettent n'importe quelle photos achetées sur des vendeurs spécifiques dont la photo d'ornement, moi j'appelle ça comme ça. Là, eux, ils choisissent, puisque là, c'était les Français sont toujours attachés à leur l'église, ici la messe de la Nativité de la Vierge à Casamicciole en Corse. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils vont même jusque-là hein, dans la propagande, c'est très intéressant. Donc ils nous expliquent, notre étude exclusive en témoigne, même de moins en moins pratiquants, les Français sont près de 70% à s'opposer à la proposition de Dalil Boubaker. Ultra majoritaire, cette hostilité se retrouve même à gauche et chez les plus jeunes. Ah, ils veulent nous convaincre avec leur sondage. Touche pas à mon église, c'est ce que répondent très massivement les Français. Alors le trait est entre parenthèses, on ne sait pas bien pourquoi. Selon notre sondage exclusif IFOP Valeurs Actuelles, pas moins de 67% d'entre eux, près de 7 sur 10, si t'es un peu bête du cerveau, tu l'auras bien compris comme ça, répondent en effet non à sa proposition de recourir aux églises vides ou abandonnées pour accueillir les fidèles musulmans. Donc ils ont leur sondage. Et donc ils ont leur appel. Et puis je vous ai dit, ils avaient une preuve. On va pas parler de la preuve, on s'en fiche. Mais alors, c'est intéressant aussi cet appel. On est dans tout ce qu'il y a de plus réac, conservateur et d'extrême droite dans notre pays.
C'est, en fait, ce qu'ils sont, ils sont assez forts, je trouve, c'est que c'est toujours raciste. Mais c'est fait de telle manière qu'ils sont pas attaquables.
Alors si, parce qu'il y a des articles où ils sont oui, c'est mais... écrit noir sur blanc. Hein. Mais ils arrivent aussi à produire ce genre de texte, ouais. Parfois un peu littéraire, avec des envolées, puisqu'on nous explique à l'intérieur, croyant, agnostique ou athée, les Français savent de la science la plus sûre, celle du cœur, ce qu'incarnent les dizaines de milliers de clochers semés sur notre sol par la piété de nos ancêtres, la haute mémoire de notre pays. Alors, je suis pas sûre que les Français, quand ils parcourent les églises de France, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup et des très belles, ça soit forcément dans un pèlerinage. Il y a aussi beaucoup d'habitants de France, hein, puisque les Français, et c'est toujours aussi ce terme très fermé qui m'énerve, vont simplement aussi visiter, puisque on est dans un pays où les gens aiment bien le patrimoine, donc ça visite. Donc c'est rigolo aussi de rattacher notre pays à une seule et unique religion. Quel catholicisme, c'est même pas la chrétienté, ils vont bien plus loin que ça. Alors, ils sont drôles aussi, puisque dans un paragraphe qui commence, l'Angélus que sonnent nos clochers scande le temps des hommes depuis belle lurette.
Oui, il n'y a plus d'église qui sonne.
Hein, voilà. Et ça se termine, le paragraphe, par « Du reste, rien ne prouve qu'elles resteront vides ad vitam aeternam ». Ah, ils y croient quand même qu'ils vont les re-remplir.
Et pourtant, il y a plein d'églises qui ont été vendues où les gens n'ont fait d'autre chose, parce qu'effectivement, entretenir, ça, y a, comme il n'y a plus de fidèles, ça ne sert à rien.
Alors, il faut rappeler que les collectivités ont certaines obligations, par exemple, la ville de Lyon doit s'occuper des églises, qui sont, pour certaines, encore des lieux de culte, elles ne s'en occupent pas très très bien, parce que, par exemple, il n'y a pas d'accès handicapé dans un certain nombre d'entre elles, et pourtant, c'est sa responsabilité.
La majorité des églises appartiennent à l'État, ce qui n'est pas le cas de toutes. Par exemple, la basilique de Fourvière, là-haut sur la colline, elle appartient à une association, hein, pas à l'État. Mais effectivement, en général, c'est l'État qui gère, et il y a eu quand même plein d'exemples de revente pour en faire vraiment autre chose, parce que effectivement il y a des lieux de culte abandonnés, et c'est toute la question des lieux abandonnés, est-ce qu'on doit les utiliser ou pas et respecter ce qu'ils ont été avant ou les transformer pour les rendre vivants. C'est la différence entre le patrimoine et la vie. Hein, grosso modo, ce qui est mort et ce qui est vivant. Et faut quand même leur dire, ils ont peut-être jamais visité l'Espagne, par exemple, mais les églises espagnoles, une grosse partie sont d'anciennes mosquées qui ont été réhabilitées en église. L'inverse de ce que dit ces racistes. Et d'ailleurs, ces églises qui sont issues de mosquées sont particulièrement belles en Espagne, parce qu'elles sont issues de mosquées. Il y a tout l'art mauresque de l'époque qui est incroyablement beau. Donc voilà, ça a peut-être posé problème à l'époque, mais on n'en a pas souvenir aujourd'hui. En tout cas, ça nous gêne plus, et ça gêne pas les Espagnols. Et là, je vois pas en quoi réutiliser un lieu vide serait si gênant que ça. Ils préfèrent peut-être les voir dans des caves, mais je sais pas pourquoi... ils auraient plus frais dans les caves, remarque.
Et puis avant de passer aux signataires, une dernière phrase, je veux bien que vous me l'expliquiez avec un commentaire de texte, s'il vous plaît. Inscrit au plus profond de notre paysage intérieur, c'est ça que je comprends pas. Les églises, les cathédrales, les calvaires et autres lieux de pèlerinage donnent sens et forme à notre patriotisme.
Ah bah oui,
c'est pas mal de terminer là-dessus, quand même. Alors, les signataires, monsieur Finkielkraut de l'Académie française, Sophie de Menton. Hein, qu'on parle souvent dans cette émission, patronne, fondatrice de La Journée J'aime ma boîte. On y retrouve Geoffrey Joux de Bézieux, vice-président du MEDEF. On y retrouve Jeannette Bougrade. Ouais. On y retrouve aussi le vice-président de la CFTC, Joseph Touvenel. On y retrouve Philippe Devilliers, ancien ministre, et Éric Zemmour. Et puis, on y retrouve aussi Nicolas Sarkozy. Oui,
hein, ouais, la droite, voilà. Et l'extrême droite, quoi.
Alors, il s'est fait un peu taper sur les doigts, a priori, même dans son camp, d'avoir signé cette chose. Voilà, on sait pas bien ce qu'il vient faire là. Enfin, si, on sait bien ce qu'il vient faire là.
Oui, mais... Le principal discours actuellement des républicains, c'était sur l'islam. Ils ont fait que parler de l'islam. Donc, ils sont focalisés là-dessus. C'est pas un problème dans la société française. Vraisemblablement, c'est un problème dans leur parti.
Alors politiquement, c'est quand même c'est là où je comprends pas bien ce qu'il va faire là, parce que c'est un peu une faute mettre les deux pieds dedans. Mais monsieur Sarkozy a l'air d'avoir quelques difficultés ces derniers temps à se décider, puisque par exemple sur la Grèce, un coup il y va, un coup il y va plus, un coup il y va et un coup il y va plus. Voilà, les républicains de droite ont un peu cette tangente en ce moment, hein. Ils bougent du cul, ils savent pas bien comment se positionner. Mais enfin voilà, valeur actuelle, il faut parfois quand même se balader chez l'ennemi pour se rendre compte un petit peu du contenu. Là, je vous ai parlé de titres. Les articles sont beaucoup plus virulents. Et oui. Il laisse, c'est pas simplement de la subtilité, la plupart sont quand même juste racistes et haineux.
Ouais. On rêve quand même qu'il n'y ait plus besoin de lieux de culte et qu'on soit tous rationalistes, mais ça, par contre, c'est pas tout de suite prévu, a priori. En tout cas, c'est mal engagé. On va parler un petit peu d'eau, parce que dans ces temps de chaleur excessive, il faut boire de l'eau, il paraît. Alors, vous n'achetez pas de l'eau en bouteille, bien évidemment, hein, c'est destructeur de l'environnement. On va parler de l'eau du robinet. Et on va revenir, alors ça je le fais peut-être une fois tous les deux ans, parce qu'une fois tous les deux ans, il y a une nouvelle ville qui bascule dans le domaine du public. Donc, il y a quand même pas mal de villes, notamment des grosses, qui ont repris en main la gestion de leur eau. Pas la ville de Lyon, naturellement, puisque nous avons un maire qui est beaucoup trop à droite, hein, pour arrêter d'être ami et donner de l'argent aux capitalistes. Et de repasser en régie publique. Alors, on va parler du cas de Rennes, qui a utilisé, entre autres, comme argument que l'eau était un bien commun, qu'on avait tous besoin, et que c'était plus logique que ce soit géré collectivement. Donc, à partir du 1er juillet, donc il y a quelques jours, les ménages rennois ont vu leur facture baisser, parce que c'est la conséquence aussi du passage en régie publique. On va expliquer tout à l'heure, hein, que c'est pas tout à fait une régie publique, c'est une société publique locale de l'eau. Il y a une petite différence. Donc, ils ont changé la tarification. Donc, les 10 premiers mètres cubes d'eau annuels sont gratuits, en estimant que c'est le minimum vital. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Et ensuite, le prix augmente au fur et à mesure qu'on consomme, pour essayer d'inciter à moins consommer. Donc, quelque chose qui est bien pensé. Avec la consommation annuelle, hein, d'un Rennois, c'est à peu près 54 mètres cubes d'eau par an. Donc il y a déjà les 10 premiers qui sont gratuits et ils vont essayer d'inciter donc à moins consommer. Pour les entreprises, c'est l'inverse. Parce que jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. Les entreprises, plus elles consommaient de l'eau, moins elles payaient. Bah oui, tant qu'à faire. Là, ce sera plus du tout comme ça, c'est un tarif constant. Et puis on rend toujours la même chose, histoire de pas dédouaner les entreprises qui consomment et qui souvent la polluent, cette eau, alors que nous, on la pollue pas, on la boit essentiellement, ou on se lave avec. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Alors, l'objectif de Rennes Métropole, donc du Grand Rennes, c'est d'atteindre un tarif unique de l'eau d'ici 2020. Parce qu'aujourd'hui, seule la ville de Rennes elle-même est passée dans le service public. Les communes autour, enfin pas toutes, il y a 56 communes, sont plutôt en régie privée. Il y a 16 prix différents d'ailleurs, ça va de 1,996 euros à 243 euros. Donc voilà, il y a une grosse différence suivant la commune où on habite pour l'eau. Donc, pour mettre tout ça en place, hein, donc je l'ai dit, ils ont créé une société publique locale de l'eau, une SPL, et le passage de relais a eu lieu au mois d'avril dernier, c'était Veolia qui avait le marché juste avant. Alors aujourd'hui en France, les grandes villes continuent majoritairement à choisir une entreprise privée. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'ils ont plus de moyens de mettre dans la corruption. Je dis ça, on rappelle, hein, qu'à l'époque, la Lyonnaise des Eaux, toutes ces choses-là ont eu beaucoup de procès pour corruption. Donc c'est pas une accusation non fondée, hein, que je dis. Non, on ne sait pas vraiment pourquoi. Si on regarde sur les 36 000 communes qu'on a en France, la moitié des services d'eau potable relèvent du secteur public, plus de la moitié, c'est 69% d'ailleurs, du secteur public. Par contre, ça concerne que 40% de la population, parce que les grosses villes, elles, ont pas, les très très grosses, n'ont pas encore basculé. Même si on a des exemples, Grenoble a basculé, enfin il y en a plein d'autres. Il y a même des études qui montrent que l'écart les plus grands qu'on ait entre le privé et le public, c'est 25%. Donc au maximum, le privé est 25% plus cher, ce qui est quand même beaucoup, hein, avec le public. Alors, il y a des gens qui expliquent bien comment ça s'est passé, notamment Mathieu Theurier, qui est un élu écolo, qui explique, je le cite, à ce moment-là, alors quand ils sont... Alors, il faut rappeler que ça a été très long, le passage en régie publique, puisque les premières discussions ont commencé en 2003-2004, donc il y a plus de 10 ans, et ça a remis une couche en 2008-2009 et c'est enfin passé aujourd'hui. Donc lui, il réexplique, à ce moment-là, la collectivité a mis le nez dans la comptabilité et on s'est rendu compte qu'il y avait quelques soucis. Donc il raconte, la collectivité octroyait chaque année une aide aux prestataires pour l'entretien du réseau. Donc là, c'est volé en plus. Au lieu de se faire ses travaux d'entretien au jour le jour, l'entreprise a placé l'argent, dégagé une plus-value et n'a fait les travaux que quand il y a eu la renégociation du contrat, hein, pour essayer de ravoir le contrat. Et ils l'ont pas eu. Ah, ça nous fait plaisir quand même. Bon, voilà, il raconte plein de choses, hein, tout, sur ce qui se passe. Alors, pourquoi avoir créé une société publique locale de l'eau et pas une régie publique? Il y a des différences un peu techniques. La régie publique, elle est gérée directement par le conseil municipal, alors que la société publique a des mandatés, des représentants qui viennent, qui gèrent la société publique d'approvisionnement d'eau. Et on a le droit d'avoir une seule entité qui gère tout, c'est-à-dire l'assainissement, la distribution et l'approvisionnement. Et ça va être plus facile d'avoir une seule entité pour aller négocier avec les 56 communes, parce que l'objectif, je le répète, c'est que les 56 communes autour de Rennes rentrent dans la gestion publique de l'eau et sortent de la gestion privée. Donc voilà. Alors se pose pour les entreprises, hein, il y a un élu communiste là qui s'appelle Yannick Nadessan qui a l'air un peu énervé qu'il faut arrêter de dédouaner les entreprises de payer le prix normal de l'eau. Donc il a fait partie des militants qui ont demandé et des élus qui ont demandé à ce que les entreprises payent un tarif constant de l'eau et non pas régressif comme c'était le cas avant. Voilà. Et après, la dernière question qui se pose, c'est sur l'agriculture. Puisque l'agriculture productiviste est majoritaire dans la région et l'agriculture productiviste surconsomme de l'eau. Donc là, il y a des choses qui sont mises en place pour quand même pas trop augmenter l'eau et c'est en cours de négociation pour essayer de changer de type d'agriculture. Mais ça, c'est sur le plus long terme que ça se passe. En tout cas, cette ville de Rennes montre que voilà, il y a des choses possibles, des changements possibles. Un petit message pour notre dictateur maire, président...
Empereur. La bonne qualification, ouais, s'il te plaît.
L'empereur du Grand Lyon, de Lyon Métropole, pardon, pour qu'il réfléchisse un peu à ça. Et on va rester dans l'eau. Et on a un petit exemple, c'est toujours la même entreprise, je n'ai pas fait exprès, c'est Veolia. Un petit exemple qui est rapporté par deux assos. La première, c'est Fondation France Liberté. Et la deuxième, c'est Coordination Eau Île-de-France. Ils ont déposé une plainte contre Veolia. Pourquoi ? Parce qu'ils accusent Veolia d'avoir procédé à une réduction de débit pendant 25 jours au mois de juin dans un immeuble à 7 dans l'Hérault où logent 10 familles, dont, dans ces familles, une retraitée de 98 ans et un enfant de 2 ans. Dans les périodes de forte chaleur qu'a connu le mois de juin, c'était quand même pas terrible. Alors ils réduisent tellement l'eau, la pression de l'eau, le débit de l'eau, c'est que au rez-de-chaussée, quelqu'un ouvre le robinet et ça marche, et puis tous les étages au-dessus, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas assez pour alimenter tout le monde. Donc, les deux associations ont déposé plainte. Alors, à l'origine de cette réduction de débit, c'est un peu classique de Veolia avec les gens qui ne payent pas, qui payent mal ou les pauvres. Hein. Puisqu'il y a un litige entre le syndic de l'immeuble et Veolia. Donc ça a commencé le 4 juin, Veolia a annoncé... qu'ils allaient réduire le débit d'eau sous 78 heures. Et grosso modo, à partir du 8 juin, le débit est proche de la coupure. Le débit est tellement faible qu'on peut pas quasiment rien en faire. Alors, il y a plein d'échanges qui vont avoir lieu entre les copropriétaires, une copropriétaire notamment, et le service Veolia. Et on a les traces des courriers. Elle dit, mais moi j'ai payé mes charges, donc j'ai payé l'eau. Pourquoi j'y ai pas droit? Et Veolia dit, non, il n'y a aucune erreur de notre part et il n'y aura aucun dédommagement et vous n'aurez toujours pas d'eau. Ce qui se passe, donc, c'est effectivement, il y a un problème entre le syndic qui récupère les charges et l'eau. Et il y a deux copropriétaires qui ne payent pas leurs charges. Des copropriétaires qui n'habitent pas, d'ailleurs, dans l'immeuble. Donc, à cause de ces deux copropriétaires, les 10 familles n'ont plus accès à l'eau. Alors, on rappelle aussi quand même que ce qu'a fait Veolia, c'est-à-dire ces quasi-coupures en baissant le débit, c'est illégal la coupure d'eau. En France, il y a une loi qui date d'avril 2013 qui protège les pauvres, notamment parce que c'est souvent les pauvres qui sont concernés par quand ils ont une incapacité à payer les factures d'eau. On n'a plus le droit de couper. Là, Veolia abuse quand même de tout ça. Alors, ils disent mais on a laissé un tout petit débit d'eau, sauf que le débit c'est l'équivalent à une coupure et c'est pour ça que ces deux structures vont en justice contre Veolia. On leur espère, on espère qu'ils vont gagner parce que ces familles-là avaient besoin d'eau. Alors ce qu'il faut savoir, et le truc drôle dans l'affaire, c'est que le jour où il y a le dépôt de plainte, Veolia réouvre les vannes. C'est bizarre, peut-être que c'est le hasard. Peut-être que c'est les extraterrestres amis de Raël qui ont fait pression, on ne sait pas. En tout cas, bizarrement, ils ont rétabli ce jour-là. Ouais, je vous laisserai imaginer ce qui a pu pousser Veolia à remettre l'eau.
Alors, on va parler maintenant de la Poste et d'une grève. Depuis le 22 juin dernier, la Poste dans l'heure était à l'arrêt à l'appel de l'intersyndicale Sud, CGT, CFDT, FO. Près de 80% des postiers hors CDD ou intérimaires des plateformes, courrier de Louviers, Val-de-Reuil et Alizay étaient en grève. Hier, un protocole d'accord a été trouvé pour la mise en œuvre d'une nouvelle organisation fin 2015. Les postiers ont repris le travail ce matin, mais j'ai plein de choses à vous raconter sur ce conflit. Alors d'abord, le conflit portait, il faut le préciser, sur la mise en place en octobre d'une nouvelle organisation du travail des facteurs. Les salariés protestent contre la disparition de 8 postes de travail ainsi que de 8 tournées sur 59, donc ça veut dire plus de boulot, plus
pour
d'heures.
Les autres, ouais.
Voilà. Et puis surtout, les postiers de l'heure sont contre la mise en place de la tournée sacoche. Qu'est-ce donc que cette tournée sacoche ? J'aime l'idée de la Poste. C'est de séparer les activités de la distribution et de la préparation de la fameuse sacoche. Comme ça, le postier ou la postière arrive, prend sa sacoche, ne parle à personne, va faire sa tournée qui, évidemment, va être allongée puisqu'il n'y aura plus la partie de préparation, ce qui veut dire être plus longtemps dehors. Tout ça. Non, il faut se rendre compte que travailler dehors, quand même, c'est pas toujours non plus l'éclate. Il y a les intempéries, hein, je vous rappelle. Les chiens, tout ça, hein, la caricature. Enfin bon, ils le disent eux-mêmes, hein, les grévistes de l'heure, cette réorganisation est une fragmentation du travail qui est destinée à court terme à sous-traiter une partie de la distribution, comme dans d'autres filiales de la Poste, hein, du groupe. Alors, ça fait un moment que la Poste, elle se cherche dans son fonctionnement. La direction n'arrête pas de modifier les méthodes de travail. Un coup, on fait comme ci, un coup, on fait comme ça. Il y a pas très longtemps, ils ont essayé aussi d'imposer le smartphone, je crois que c'était à Agen, pour soi-disant améliorer la qualité du travail des postiers et des postières. Bon, il y a eu une telle animation et mobilisation que pour l'instant, ils ont fait marche arrière. Donc voilà, ils sont tout le temps, depuis 10 ans, en train de tout bouleverser. Et puis, sur cette grève, la direction, elle était sûre d'elle, puisqu'elle avait assuré que la distribution du courrier était assurée par les non-grévistes, car il y avait peu de grévistes. Pourtant, si on lit bien la presse locale, il semblerait, et puis les communiqués de l'intersyndicale, il semblerait que le mouvement a bien paralysé le service postal du département. Tellement que ça a paralysé toute la distribution du courrier que malgré tout la direction de la Poste avait pris décision de faire appel à des taxis pour distribuer le courrier aux particuliers. Alors, le groupe La Poste argue que l'entreprise a une obligation de continuité du service public et qu'elle devait donc trouver des solutions alternatives, hein, pour distribuer ce courrier qui s'entassait. Alors, la direction de La Poste a reconnu que la possibilité de faire appel au taxi pour distribuer le courrier a effectivement été envisagée, mais abandonnée en début de semaine. Pourquoi ? Parce que une fois que les taxis ont eu leur contrat sous les bras, eh ben ils sont allés voir les facteurs. Et oui, ils ont été leur raconter tout ça. Alors, il faut savoir que c'est une région où, sur les problématiques entre taxis et VTC, il y a eu quelques ententes entre certains syndicalistes et les taxis, certaines amitiés, solidarités, ce qui fait que ils se sont retrouvés sur ce mouvement. Les taxis ont expliqué qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de signer et qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de casser le mouvement de grève. Ça s'appelle quand même de la solidarité. Donc, évidemment, avec ces contrats, on en sait un peu peu plus. On sait par exemple que les taxis devaient se présenter à 4h du matin afin de récupérer le courrier, avec évidemment leur véhicule. Il était prévu qu'ils soient payés 300 euros hors taxe par zone de distribution. Alors, d'après les chiffres de l'intersyndicale, les postiers sont payés entre 50 et 60 euros pour faire le même travail. Quelques différences quand même. Alors, il faut bien se rendre compte que la Poste a le droit de faire appel à la sous-traitance pour assurer la continuité du service public. Il faudrait juste rappeler quelques détails, c'est que les facteurs, ils sont assermentés, ils et elles sont assermentés, ils s'engagent à la confidentialité, ce qui n'est pas le cas des chauffeurs de taxi dans toute cette affaire. Et d'ailleurs, a priori, il n'y a pas d'entreprise assermentée en Haute-Normandie, donc de toute manière, la Poste avait quelques difficultés pour mettre en place cette sous-traitance. Bon, alors pour l'instant, la grève, elle est levée, je dis pour l'instant, hein, puisque on ne sait pas bien ce que la direction réserve en octobre, justement. Les salariés sont largement soutenus par les habitants et les usagers qui sont allés en plein cœur de cette grève, bloquer le centre de Val-de-Reuil en signe de protestation quand ils ont appris qu'il pouvait y avoir des recours au taxi. Ça aussi, c'est de la solidarité.
Alors, on va parler d'une entreprise qui appartient à EDF, enfin, dont EDF est le principal actionnaire et que EDF veut faire couler, veut fermer. Alors, ça concerne 77 salariés et cette entreprise s'appelle Nexis. Donc, c'est une filiale d'EDF spécialisée dans la recherche d'énergie photovoltaïque. Elle est implantée à Aix-en-Provence. Alors, ils sont menacés de licenciement suite à l'annonce d'EDF, il y a quelques jours, de la liquidation de la société. Une annonce d'autant plus surprenante que les ingénieurs et les techniciens, c'est essentiellement des ingénieurs et des techniciens, c'est un centre de recherche en fait, ils ont mis au point un procédé super intéressant. Donc, des minces panneaux photovoltaïques transparents qu'on met dans le double vitrage des bâtiments, des maisons comme des immeubles, et qui produisent de l'électricité. Donc, en plus, sur les vitres. Ça s'appelle des BIPV, un Building Integrated Photovoltaic, pour parler anglais avec un accent pourri. Ça a plein d'intérêts, ça peut réduire la luminosité et ça produit de l'électricité. Alors, quand on écoute les responsables, notamment Bertrand, là, il explique, lui, qu'à terme, des immeubles avec des vitres orientées est, ouest ou sud pourraient être carrément autosuffisants en énergie grâce à ce genre de panneaux photovoltaïques transparents qui se mettent sur les fenêtres. Donc on se dit, mais il y a un énorme avenir là-dedans. Ben voilà, sauf que EDF a décidé de se débarrasser de la boîte. Et pourtant, ça a été monté avec beaucoup d'argent, 75 millions d'euros d'investissement, dont un tiers quand même d'aide publique, montée par EDF et aussi l'Institut de Recherche et de Développement pour l'énergie photovoltaïque. Mais alors pourquoi EDF fait ça? Pourquoi EDF sabre cette entreprise qui semble avoir plein d'avenir? Alors on n'a pas toutes les réponses. Vraisemblablement, la première, c'est que Jean-Bernard Lévy, hein, qui est le nouveau patron d'EDF, il doit se couper dans l'art. Hein, parce qu'il est là pour redresser les comptes de l'entreprise. Parce que EDF, on n'en parle pas souvent, mais c'est une entreprise qui est quand même au bord du gouffre, notamment par les dépenses qu'elle a faites en achetant moult entreprises à l'étranger. Donc, lui, il a regardé. Nexis, c'est un centre de recherche. Ça, pour l'instant, ça ne produit rien, ça ne vend rien. Donc, c'est des frais. On coupe la branche. Grosso modo, c'est ça. La deuxième raison, c'est peut-être que lui, il a une vision à long terme. Il se dit, mais si jamais on sort ce produit et qu'on le vend, ben on va vendre moins d'électricité, nous, après. Parce que les gens vont en autoproduire une partie. Donc, ce serait bien d'enterrer tout ça. Alors, il faut savoir que l'entreprise a quand même déposé plein de brevets. Je crois qu'il y a 17 brevets déposés. Il y a aussi l'idée, et il y a un rapport de la Banque Rothschild qui avait été demandé en 2014, qui laisse entendre qui pourrait expliquer aussi qu'ils veulent mettre de côté pour après laisser passer un peu de temps, une fois que la boîte a coulé, et ils revendent à prix d'or ces brevets, parce qu'il y a quand même un intérêt économique et très important. Il y a un intérêt écologique, mais ça les intéresse moins, un intérêt économique. Alors, on en est là pour l'instant. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé puisque il y a trois dossiers de reprise. Là, ils ont mis un truc de sauvegarde de l'emploi en place et ils vont faire arrêter l'entreprise. Mais des propositions, trois, ont été déposées, dont une repris par une quarantaine de salariés de la boîte associés à une start-up qui travaille eux sur un filtre sur les vitres. Donc, ils seraient complémentaires. Donc, il y a ça. qui pourraient être en œuvre. Il y a Bouygues Construction et TCE Solar qui se sont proposés aussi, qui ont mis un dossier pour récupérer l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que dans la région, les élus sont pas mal mobilisés, notamment forcément les élus du Front de Gauche ou les élus écolos, qui se sentent un peu concernés par ce qui est social et par ce qui est écolo, chacun dans sa branche, mais aussi par des élus autres, parce que c'est de l'emploi dans la région, donc on a des élus UMP qui sont mobilisés aussi, enfin à l'époque c'était UMP, maintenant on dit les Républicains, LR, des élus LR. Et par contre, l'État ferme sa gueule. Alors pourtant, les salariés Nexis ont été reçus par Elisabeth Borne, qui était à l'époque, en mars, c'était la directrice de cabinet de Ségolène Royal, le ministre, la fausse ministre de l'écologie. Ils les ont écoutés parler, mais ils n'ont pas eu de réponse. Hein. Alors, c'est quand même bizarre. Alors il faut rappeler que l'État est actionnaire propriétaire à 84% d'EDF. Donc peut-être que l'État est aussi à la manœuvre derrière pour se débarrasser de cette boîte qui représente l'avenir, alors que l'EDF et le nucléaire ne représentent pas l'avenir, mais vraisemblablement l'État veut quand même maintenir le nucléaire fort face au reste, et donc il va falloir trouver les moyens pour tuer le reste. Hein. Grosso modo, c'est ça qu'on semble comprendre derrière l'action du patron d'EDF et de l'État, et en tout cas de l'absence de réponse de l'État. Donc voilà, on tiendra au courant dès qu'il y a des réponses dessus, parce que c'est vraiment un truc qui pourrait être intéressant dans l'avenir.
Et on termine avec une lutte. Depuis 18h30, un mouvement de grève dans le métro londonien a débuté pour 24 heures. Alors, ce sont les conducteurs et le personnel de la London Underground qui sont en grève. C'est un mouvement social qui concerne que le métro. Je vous rappelle, le métro, les bus, c'est deux régies différentes. Donc, voilà, c'est pas la même boîte.
C'est le libéralisme anglais.
Hein. Ah,
c'est
la
différence,
oui.
C'est ultra cher, c'est beau le secteur privé.
Voilà, alors la Transport for London avait mobilisé 200 bus supplémentaires pour essayer de faire face à cette marée humaine qui cherchait à se déplacer à 18h30. Puis depuis 18h30, alors le Transport for London a même lancé un appel aux usagers à se déplacer à vélo. Hein. Soyez quoi, sympa.
C'est marrant qu'ils appellent à se déplacer à vélo en Angleterre, alors qu'il y a des grosses campagnes anti-vélo en Angleterre. Il y a des gros lobbies et ils arrivent à avoir accès aux médias et à faire passer l'idée que le vélo, c'est en fait les bobos riches des villes qui les prennent, alors que c'est pas du tout le cas dans la majorité des utilisations du vélo. Donc c'est assez drôle qu'ils fassent cette campagne alors que le pays est majoritairement anti-vélo et qu'il y a des grosses campagnes anti-vélo.
Ouais, alors plus sérieusement, puisque il y en a quand même une grève, ça a été une grève qui a été lancée par une intersyndicale de 4 syndicats. Les syndicats et les salariés jugent les primes proposées à la direction pour assurer un service 24 heures sur 24 sur certaines lignes le week-end insuffisantes. Et puis les syndicats et les salariés contestent les modalités de la mise en place de ces nouveaux services. Alors évidemment, il y a des réactions, monsieur Cameron en tête. Il a fait savoir qu'il jugeait cette grève inacceptable et injustifiée. Bon, il a toujours le même vocabulaire. De toute façon, avec les grèves, on a l'habitude. Maintenant, on se répète un peu. Il trouve toujours ça déplacé, inacceptable. Ça le met en colère. Il est pas content. Le patron de la London Underground, monsieur Mac Brown, a adressé carrément un message aux usagers en expliquant que cette grève n'était pas nécessaire.
Lui, il va. Ben voilà. Lui, il fait pas grève d'ailleurs.
Non, mais il paraît qu'ils ont fait une offre remarquable d'équité.
Oh là là, un patron qui parle d'équité.
C'est un peu comme la FIFA, on a du mal à y croire, c'est un peu pareil. Alors oui, effectivement, les syndicats ont refusé les offres jusqu'à présent. Ils estiment que la direction ne prend pas en compte l'impact du service de nuit sur les rythmes de travail. Et puis on rappellera qu'effectivement, quand on travaille de nuit le week-end, c'est pour le loisir des autres, dans la grande majorité. Donc on peut se permettre de rétribuer collectivement, convenablement, tous ceux et celles qui bossent pendant ce temps.
Non. Oui. Pour notre plaisir.
Voilà. Bah nous, on les soutient.
Ouais. Quelques petites infos sur l'agenda avant de se quitter, puisqu'il est 20h pile, la pendule rouge et éblouissante de la plus rebelle des radios. D'abord, Alternatiba, puisque Alternatiba, c'est un groupe d'une sorte d'initiative citoyenne, un peu pour essayer de faire comme il y a eu des mouvements en Espagne, comme ça, de partant de la société civile pour essayer de faire changer le politique. Bon, bref, il y avait une sorte de vélorussion et d'une rencontre au parc de la Tête d'Or aujourd'hui. À 18h30, ils sont partis, c'est trop tard, hein. Ils sont partis en vélorussion et ils ont rendez-vous place Saint-Jean, où il y a des stands, des animations, des concerts. Donc, si vous voulez, allez vous renseigner sur Alternativa. Hein, c'est un peu à la mode dans les milieux alternatifs en ce moment. Les milieux alternatifs, plutôt altermondialistes ou les choses comme ça. Ça vous donnera une idée de ce que c'est. Vous pourrez voir, c'est toute la soirée, donc place Saint-Jean. Et on les retrouvera d'ailleurs, parce qu'ils font le journal le Village des Alternatives, 9, 10 et 11 octobre dans le 7e. Les 10 ans de BDS, donc BDS, je vous rappelle, c'est la campagne boycott des investissements de sanctions pour boycotter les produits des entreprises fabriquées dans les territoires occupés par Israël. Ils fêtent leurs 10 ans, il y a un bilan qui est fait sur ces 10 ans avec un invité qui est Ali Abounima, qui est celui qui a un site internet qui est assez célèbre, hein, ceux qui s'intéressent à la Palestine, qui s'appelle Electronic Intifada, qui est un journaliste et qui écrit des livres. Donc voilà, il sera, demain, on sera le 10 juillet, à la Maison des Passages, 44 rue Saint-Georges, dans le 5e, à partir de 19h. Vous pouvez amener à manger et à boire, mais il y aura aussi des plats palestiniens qui seront disponibles pour soutenir la lutte. Et samedi, je vais parler musique et en lien avec la Palestine, il y a le trio Joubran, qui joue à Vénissieux. Vous savez, c'est les concerts des fêtes d'escale au parc Dupic de Vénissieux. Donc, ils jouent à 22h30 samedi. C'est de la musique qui vient justement de la vallée du Jourdain, de cette région-là. Un très, très beau trio.
Et puis moi, je vais terminer avec un agenda. Demain, vendredi, sera adoptée définitivement la loi Macron.
Tu veux dire,
grâce,
t'es triste,
au troisième du nom, 49-3, et oui, puisque ça a été annoncé par Monsieur Valls aujourd'hui.
Ouais, c'était pas une surprise.
Bah non, on s'y attendait, de toute façon tout le monde faisait des jeux de mots avec jamais 203, tout ça, tout ça. Non, c'est bien, c'est pratique. Moi je trouve que c'est bien fait. Hein.
La démocratie.
La vie publique et la démocratie, c'est quand même bien fait. Ouais. On va terminer là-dessus.
On se retrouve donc la semaine prochaine, 19h-20h, pour le prochain Canu Info du jeudi. Bye bye.
On se souhaite une bonne soirée. Ciao.